Excellente soirée à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour votre traditionnel rendez-vous littéraire du mercredi sur Radium 90.5 en modulation de fréquence dans le département de Lyon ou en direct aux quatre coins de France, d'Europe et du monde sur le www.radium.fr. Bonsoir et bienvenue à bord de Wagon Livre pour une émission qui devrait libérer de bonnes odeurs de cuisine, exciter à la fois nos papilles et satisfaire nos appétits de lecture. En fait, à moins de 10 jours du réveillon de Noël, nous avons dans notre hôte un délicieux recueil de contes gourmands, d'historiettes, sorti mi-novembre dernier en librairie aux éditions Rhubarbe. Ce recueil d'historiette a pour titre « Les oies du capitaine » et son auteur se trouve devant notre micro, Jean-Paul Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis content de vous retrouver.
Bah, c'est partagé.
Merci beaucoup. On avait, sur d'autres ondes, il y a 2 ans, parlé de votre autre recueil, c'était Le Bourdon et la Coquille, contes et légendes des chemins de Saint-Jacques. Et là, vous continuez votre cheminement littéraire et intellectuel en nous faisant investir à la fois l'histoire et vos bonheurs culinaires et votre gourmandise.
Et oui, parce que, enfin, je le dis dans le livre, ou je le fais dire, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bons repas sans bonnes histoires, et les bonnes histoires sont souvent aussi la conséquence d'un bon repas. Donc, il y a entre la littérature et la gastronomie des liens qu'il serait dommage de laisser se distendre.
Alors, petite mise en bouche pour nos auditrices et auditeurs, je vais me permettre, Jean-Paul Rousseau, de vous présenter un peu, quand bien même certaines et certains qui nous écoutent ce soir vous reconnaîtront. Vous êtes né en Bresse louhannaise,
oui.
Ça vous aimez bien le rappeler, vous résidez à Auxerre toujours.
Je suis auxerrois.
Et puis vous investissez dans la vie politique de la cité auxerroise, puisque vous y êtes, je suis allé voir sur le site de la ville d'Auxerre, vous êtes adjoint chargé des travaux du patrimoine et des technologies de l'information et de la communication. Diantre.
Oui.
Que de casquettes.
Enfin bon, Auxerre est une ville de 40 000 habitants, c'est-à-dire que comparé, on va dire, à mon village de naissance qui en a 200, ça fait beaucoup, mais ça reste quand même une ville moyenne. Et il est normal que dans une équipe municipale, les adjoints aient plusieurs casquettes. Et donc, la multiplicité des titres ne doit pas induire en erreur. Déjà, entre les travaux et le patrimoine dans une ville comme la nôtre, toutes les personnes qui connaissent Auxerre ont tout de suite conscience que le patrimoine architectural de la ville est tel que l'adjoint aux travaux a forcément à voir avec. Quant aux nouvelles technologies, Dieu merci, elles ne sont plus si nouvelles que ça. Et mon rôle se borne à accompagner une excellente équipe. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça.
On rappellera.
On le rappelle, je vous en remercie.
Mais vous avez aussi été adjoint à la culture.
Dans une vie antérieure, oui. Bien, enfin, alors, tout au moins dans un mandat antérieur.
Alors, écrivain aussi ? Écrivain ou auteur ? Que bah, faut-il dire ?
Écoutez, il y a des peintres du dimanche et on va dire qu'il y a des écrivains du samedi, j'en suis un.
Votre éditeur Alain Quévez donc me rappelait effectivement votre bibliographie, pardon. En 2007, Le Kalahari attendra aux éditions Mutine auprès de Marie-Thérèse Mutin,
qui est une très bonne amie,
connue je pense au conseil régional.
Exact, et avec laquelle j'ai beaucoup sympathisé.
En 2008, aux éditions Auxerroises Rhubarbe, parce qu'il faut rappeler que votre éditeur est auxerrois.
Ah oui, mais je ne saurais l'oublier.
Les écrevisses de Monsieur le Prieur, un recueil de nouvelles, donc là c'était en 2008. En 2010, suite à votre quatrième pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, donc Le Bourdon et la Coquille, des nouvelles et des légendes que vous avez inventées pour notre plus grand bonheur, toujours disponibles aux éditions Rhubarbe. Et puis donc, ce soir, coup de projecteur sur Les oies du capitaine. Alors si je lis le titre complet, Les oies du capitaine et autres historiettes autour d'un plat, compté par l'oncle Chambol, accompagné des recettes y afférentes. Pourquoi c'est écrit autour de la nourriture, gourmandise des mots, gourmandise dans la cuisine et dans l'assiette.
Je vais me répéter, je pense que pour bien manger, on mange rarement bien quand on est tout seul. La solitude n'est pas, en général, quelque chose qui se marie avec la gourmandise. Enfin, on peut être gourmand, bien sûr, mais c'est tellement plus agréable d'être gourmand à plusieurs. Et si on est gourmand à plusieurs, à deux déjà, rien n'est plus sinistre qu'un repas où les convives se taisent ou égrènent des banalités. Et je pense, et j'ai toujours pensé, et je pense de plus en plus, que pour qu'un repas soit bon, il faut que deux choses, il faut que les mets soient à la hauteur, et il faut que la conversation soit à la hauteur des mets.
Alors, qui est donc cet oncle Chambol ?
L'oncle Chambol, c'est parce que c'est une très vieille histoire dans une vie antérieure, encore une, et lointaine. J'étais révolutionnaire, alors il m'en reste pas grand-chose, on nous avait appris que pour échapper aux forces réactionnaires, il valait mieux avoir un pseudonyme, et que ce pseudonyme devait évoquer votre prénom, de façon à ce que si jamais on vous arrêtait, vous pouviez dire, mais j'ai entendu, vous avez crié Jean-Paul, je me suis retourné, mais c'était parce que je m'appelle Chambol. Et j'ai gardé ce pseudonyme et je m'en sers pour écrire, mais il trompe personne. Hein. Depuis le temps que je l'utilise, c'est un faux pseudonyme. Et j'aime bien cette idée de, vous savez, dans toutes les familles, il y a un oncle. Moi, j'en ai eu au moins deux comme ça. Il y a l'oncle Victor ou l'oncle Maurice qui va raconter. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais moi, j'ai connu les anciens des deux guerres, et il y avait des histoires de guerre, et puis des histoires, saga familiale, références comme j'appartiens à une famille qui a un lourd passé politique, de nombreuses anecdotes politiques célébrant ma famille et faisant rire aux dépens de celles des autres, et puis d'où l'oncle Chambol.
Dans le déjeuner de Pâques en Bresse-Bourguignonne, qui est le texte qui clôt le recueil, vous présentez en fait les mets comme un opéra en trois actes avec ouverture, intermède et finale. En cuisine, vous êtes l'homme orchestre, Jean-Paul Rousseau ?
Je suis presque un homme orchestre, car j'avoue que je ne suis pas très bon pour les desserts. Mais pour le reste, je pense que je suis capable de concevoir et de réaliser un menu sans beaucoup de difficultés. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un gars à verrine, petit machin qu'on agite et, siphon bourré à l'azote liquide. Hein. Moi, je fais partie, en cuisine, je suis plutôt du côté des traditionalistes, si vous voulez.
Oui, c'est ça, vous n'êtes pas dans la mauvaise tendance moléculaire, cuisine moléculaire, non.
Pas vraiment,
C'est le seul aspect où vous êtes, je dirais le seul domaine où vous êtes conservateur.
Non, c'est pas le seul aspect où je suis conservateur. On est tous plus ou moins conservateurs dans plus ou moins de domaines. Mais en cuisine, je suis assez conservateur. Je respecte, il m'est arrivé de très bien manger chez des cuisiniers professionnels, qui avaient des hardiesses culinaires un peu inattendues. Il m'est arrivé aussi de très mal manger. Et alors, quand c'est chez des amateurs, généralement, je vais vous dire, j'ai besoin, vous allez me poser une question pour savoir s'il m'arrive de mentir, et bien là, la politesse m'oblige à opiner du bonnet, mais c'est vraiment à regret.
J'aime beaucoup la précaution du début, enfin précaution, j'allais dire, c'est presque le mode opératoire de ces histoires. Je vous cite Jean-Paul Rousseau, « L'homme ne vit pas que de pain, il lui faut du beurre dessus ou du pâté de lapin ou des œufs en meurette et les histoires qui vont avec. » C'est tout le projet littéraire de ces histoires que vous avez soumises à votre éditeur.
C'est absolument. L'idée, c'était de trouver une concordance. Alors, peu importe. Après, c'est à moi, comme auteur, de m'en débrouiller. Entre un plat et ce qu'il évoquait, une résonance. Bon, je fais partie de ceux, alors on pourra penser que là aussi je suis conservateur, fais partie de ceux qui pensent qu'un pays vit aussi avec un récit national. Et donc, j'ai essayé de placer, en entremêlant aussi quelques souvenirs familiaux, mes plats dans un contexte de récit national. Alors, quelquefois... on est en pleine imagination. S'il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que le moine qui était cuisinier sous Charles Chauve à l'abbaye Saint-Germain n'a pas inventé la peau chose. Mais moi, j'aime penser qu'il l'a inventé et dans les conditions.
Oui, le G3 de voilà. Verdun-sur-le-Doubs.
Voilà.
En plus. Moi, sorti de votre imagination, de la marmite, là,
oui,
la cervelle est marmite, là, c'est en ébullition.
Sauf que le traité de Verdun a bien été signé à Verdun-sur-le-Doubs. J'en profite pour le rappeler à tous les bourguignons, les gens qui croient que le traité... Enfin, on ne parle plus du traité de Verdun maintenant, mais le traité de Verdun, qui a fondé quasiment la nation française dans son territoire, a été signé à Verdun-sur-le-Doubs. Ça n'est pas du tout... Verdun sur la Meuse a d'autres titres de gloire, mais Verdun sur le Doubs, le traité et la peau chouse, ce qui suffit à illustrer une ville.
Mais dans justement cette histoire sur la peau chouse, qui a pour titre Diplomatie carolingienne, vous dites « Tout problème peut trouver sa solution à condition qu'on dispose d'une table bien garnie. La nourriture, c'est un moment consensuel où les dissensions, les haines et les antipathies disparaissent devant une assiette
Elles ne disparaissent pas.
Elles se mettent en suspens.
Elles se mettent à distance. Et bien que je n'aime pas trop le personnage, bien qu'il ait été évêque d'Autun, mais que c'est Talleyrand qui est parti au congrès de Vienne en disant qu'il avait plus besoin de casseroles que de conseils diplomatiques. Donc je crois qu'effectivement... il y aurait quelques rencontres. Ben tiens, actuellement, et pour faire un peu de provocation, mais je pense que au lieu de se rencontrer dans les couloirs de l'Assemblée nationale, messieurs Copé et Fillon feraient bien de s'organiser un petit machon, et je suis même prêt à leur indiquer quelques adresses savoureuses. Je pense que ça porterait chance à leur mouvement.
On s'accorde une petite pause, Jean-Paul Rousseau, on laisse reposer et on se retrouve dans une poignée de minutes en cuisine ou peut-être à table, justement, avec vous, Fine Bouche, pour Les Oies du Capitaine, un ouvrage disponible aux éditions Rhubarbe. On écoute une chanson de GL qui a pour titre La Mayonnaise. Bonne soirée sur Radion.
Dans un bol assez large, mélangez le jaune d'œuf et la moutarde jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Incorporez alors un petit filet d'huile, juste quelques gouttes, en tournant vivement toujours dans le même sens avec une cuillère en bois ou en utilisant un fouet. Quand je t'ai vu, belle inconnue, j'ai sorti les couverts, mes coupes en cristal et le service de ma grand-mère. Je t'ai aimé, tu m'as aimé, on avait la recette de l'amour parfait servi tout chaud sur une assiette. À force et sur la crème et sur les petits mots tendres, tout ça manquait de sel pour que la mayo puisse prendre. C'est le vent qui a tourné et la mayonnaise avec nos promesses et nos baisers sont devenus des prises de bec. J'ai tout de suite su que je t'aimerais tout cru, sans crème, sans condiment, juste un lit d'amour, du sexe et du piment. Mais qui l'eût cru, c'était déjà cuit, on vivait dans la fournaise, on s'est empâté dans notre pot de mayonnaise. À force et les je t'aime, on a pris des kilos, tout ça manquait de sel, pour faire une belle mayo. Oh yeah, oh.
la mayonnaise avec nos promesses et nos baisers sont devenus des prises de bec. C'était tendu, on s'est battu, j'ai mis les pieds dans le plat. On a fait des omelettes, on a remonté le thermostat. Je t'ai haï, tu m'as trahi, je te disais des fadaises. J'ai tout essayé pour faire reprendre la mayonnaise. De la crème à 0%, du thym, du basilic, du curry, du safran et une dose d'arsenic. Commencez alors à verser l'arsenic petit à petit, chaque jour en un mince filet, en tournant bien entre chaque ajout. Lorsque la mayonnaise commence à prendre, ajoutez quelques aromates pour faire passer le goût un peu douteux de l'arsenic. C'est le vent qui a tourné et la mayonnaise avec nos promesses et nos baisers sont devenus des prises de bec.
Radion, au cœur de la Bourgogne, 90.5. Et partout dans le monde, sur radion.fr.
Après cette escale musicale, retour de Wagon Livre, tous les gourmets remontent dans notre compartiment qui a des allures ce soir de chaleureux bistrot, de brasserie ou d'auberge de campagne et de charme. On se remet presque à table aux côtés de notre invité Jean-Paul Rousseau pour son dernier texte paru chez Rhubarbe, Les oies du capitaine et autres historiettes autour d'un plat. Jean-Paul Rousseau, on parle un peu justement de cette Bresse natale que vous aimez tant et pour cause. Il y a deux historiettes par rapport à la Bresse natale. L'une, dont on appréciera d'ailleurs l'allitération, comment rabattre son caquet à un coquin. C'est drôlement savoureux aussi au niveau des sonorités. Peut-être justement, pourriez-vous expliquer ce qu'est un beureau? À un moment, vous parlez de quelqu'un qui est un beureau.
Bien, en bressant, on est beureau, pas beureau, hein, beureau. Quand on a le teint mat, les yeux noirs, les cheveux noirs également, et mon parrain, par exemple, était beureau, et était beureau à un point tel que quand il était venu à Paris nous rendre visite, bon, c'était pendant la guerre d'Algérie, s'était fait arrêter l'agent de police l'avait pris pour un Algérien en vadrouille, et on a eu beaucoup de mal à prouver que non, pas du tout, il est originaire de Beaujean et que ça n'avait vraiment rien à voir avec le bled. C'était un bled, mais pas le même.
Et là, vous aviez réussi à lui faire rabattre son caquet
Il avait fallu être un peu poli quand même. Ça ne s'était pas passé, de façon très amicale.
Dans cette historiette, oui, vous faites l'éloge du coq au vin tout en... Il faut bien préciser que chaque historiette est suivie de la recette authentique avec les conseils, les remarques de Jean-Paul Rousseau, notamment sur le coq au vin. Vous dites très difficile de trouver un coq aujourd'hui.
Ah ben, le coq est un animal non pas en voie de disparition, mais que l'élevage industriel a rendu rarissime. Et trouver un coq au marché s'avère une entreprise un peu compliquée.
Les vins sont plus faciles à trouver.
Le vin est plus facile à trouver que le coq. C'est tout à fait exact. J'en profite pour rappeler comme ça au passage qu'il est tout à fait inutile de se livrer à l'exercice qui consisterait les intitulés coq au chambertin, etc. Je pense que ça sert plus à attraper le client qu'à autre chose. Une bonne recette au vin se fait avec un bon vin, mais pas avec un grand vin. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi, qui suis maintenant... presque naturalisé au Serrois, j'ai bien dit presque parce que on ne l'est jamais totalement, je fonctionne plutôt à l'Irancy.
Oui, j'ai noté une sorte de grande faiblesse chez vous pour l'Irancy, qui est célébré à plusieurs reprises, à juste titre.
Qui le mérite, je tiens à le dire, comparé à certains vins de plus grande réputation, l'Irancy a de grands mérites.
Alors avec la recette du coq au vin, vous préconisez éventuellement un aligoté de Chytry?
Oui, parce qu'on peut faire aussi, le coq au vin se fait au vin rouge ou au vin blanc, le goût n'est pas le même. Les Alsaciens, je crois, Alain, vous en parlerez avec mon éditeur, qui a des provinces de l'Est, il vous dira ça. Il y a des recettes de coco vin blanc qui sont fort aimables, mais moins vrai, pour moi, un vrai coco vin, c'est un coco vin rouge. Bon, ceci étant, chacun vit avec son histoire, hein, et je ne condamne personne.
Alors, cette historiette qui nous ramène au 19e siècle, me semble-t-il, ou au début du 20e.
Au début du 20e,
dans votre Bresse natale, donc un coco vin est l'enjeu d'un jeu de rabat qui est une sorte de jeu de quilles bressant.
Oui, c'est un jeu de quilles bressant. Je ne pense pas que vous puissiez le trouver ailleurs. C'est un peu compliqué. Il a ses champions. C'est un jeu, on l'appelle, c'est un jeu de rabat parce que les quilles, la boule roule dans une espèce de piste qui se termine en coude. Elle revient sur les quilles et le rabat, et d'où le terme rabat, elle rabat les quilles. Il y a des folkloristes, il y a même sur Internet, si vous êtes curieux, vous pourrez trouver les règles du jeu de rabat assez bien présentées.
Alors, puisqu'on est dans les règles, et là je fais appel à une autre histoire bressane, peut-être pourriez-vous parler de quelles sont les règles pour faire Vepro.
Alors, Vepro, mais bon, non, mais c'est pareil, l'accent varie, puis moi je l'ai perdu, hélas, ou tant mieux peut-être. Vepro, c'était le 4 heures, c'est-à-dire que j'ai été élevé en partie dans mon village natal, enfin j'y ai passé pas mal de temps, et mon parrain y était cultivateur. Et quand il mangeait solidement à midi, puis il allait travailler, c'était très physique, hein, c'était encore l'époque, moi j'ai vu labourer derrière le cheval, enfin bon. Et vers 4h30, 5h, il revenait, et on faisait Vepro. Vepro, c'était un solide casse-dalle, il y avait de la charcuterie, du fromage, un coup de rouge, et éventuellement une petite part de galette pour aller avec. Ça permettait de tenir le coup pour atteindre le soir. Alors on pouvait faire Vepro aussi avec, je crois que c'est là que j'en parle, mais je crois pas, j'en suis sûr, avec le fromage blanc aux herbes. Ça dépendait de l'occasion, des goûts des convives, voilà. Alors, c'est un moment bien agréable, je peux vous le dire.
Ce qui est amusant, c'est que dans l'histoire où vous mettez en valeur le fromage blanc à la bressane, c'est que ça permet aussi de choisir la bonne femme, la future bonne épouse, parce que celle qui préfère un caillé à un fromage blanc aux herbes est une pimbèche.
Ben, dans l'histoire, oui. Dans l'histoire, oui. Puis là, j'ai glissé un souvenir qui est un souvenir familial. Voilà, si vous voulez tout savoir. Bon, on aime mieux. Enfin, le fromage blanc aux herbes, c'est un mets quand même assez vigoureux. Dans lequel il y a de l'échalote, des herbes, des bonnes herbes, puis une pointe d'ail, une pointe.
Hein, c'est vigoureux, c'est... vous pensez
vigoureux, costaud,
avec des vertus aphrodisiaques ou aussi au niveau de la laine.
Je pense que aphrodisiaque, toute bonne nourriture l'est un peu. Donc le fromage blanc doit l'être. Et ce serait quand même dommage que vous, si vous êtes avec l'élu de votre cœur, imaginez-vous, c'est l'été, vous avez mangé, vous avez eu un bon fromage blanc aux herbes, dessus vous avez bu, allez, un petit coulange, vous avez rien à faire d'autre que de partager des moments agréables avec l'élu de votre cœur. Ce serait dommage qu'elle vous dise « Ben non, pas ce soir parce que tu sens l'ail ». Si elle le sent aussi, c'est réglé. Donc il faut... c'est un vice qu'il faut partager. Voilà.
Et vous êtes toujours très précautionneux, notamment aussi pour l'aïoli. Alors là, on s'éloigne énormément de la Bresse. Vous célébrez aussi l'aïoli en rappelant que les Britanniques détestaient
je pense qu'il y a de la légende là-dedans, mais les Anglo-Saxons n'étaient pas des fanatiques de l'ail, effectivement, et ça me permettait Vous savez, moi, je suis un Méditerranéen. Enfin, là, du côté, quand on est né comme moi, du bon côté du Morvan, dans la vallée de la Saône, on sent encore un petit parfum. Il suffit de se promener dans les rues de ma ville d'enfance, Châlons, pour sentir comme un petit parfum de midi. Et on n'est pas des fanatiques de comment dire. L'anglomanie, ça n'a jamais été trop notre truc. Nous, on regarde plutôt du côté de l'Italie, du Sud, de la Suisse, quelquefois, pour certains qui ont des économies à placer.
J'ai appris ce qu'était un communard.
Oui.
Alors, je savais, là aussi, toute la polysémie de la langue, je savais ce qu'était un communard. Quand j'étais adolescent, on parlait des communards. Oui. Mais là, d'un point de vue cuisine, je ne savais pas ce qu'était un communard. Et grâce à vous, merci Jean-Paul Rousseau, j'ai pu augmenter un peu mon vocabulaire.
Je l'avais augmenté moi-même parce que j'ai un cousin qui était cuisinier, qui avait un hôtel, et il y avait quelqu'un qui faisait le communard. Voilà. Et donc, il faisait la cuisine pour tout le monde. Mais c'est répandu, hein, comme nom. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois.
Parfait. J'ai appris ce qu'était un communard. J'ai posé la question à des cuisiniers et je leur ai dit, mais comment s'appelle celui qui, dans une cuisine, fait le repas des autres cuisiniers ou du personnel? Et ils connaissaient, ils m'ont dit, mais c'est le communard. J'étais épaté. Écriture et cuisine, ou comment se réapproprier l'histoire et les recettes de la gastronomie bourguignonne, entre autres. On va parler un peu de la Bourgogne dans quelques minutes. Ce soir, à bord de votre rendez-vous littéraire, eh bien, nous accueillons Jean-Paul Rousseau pour Les oies du capitaine. On va le laisser mijoter et on le retrouve dans quelques minutes après Salade de fruits, interprétée par Bourville.
Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit.
Salade de fruits, Bourville à l'instant sur Radion. Au menu ce soir, des œufs en meurette, de la terrine de lièvre, de la blanquette de veau, du gâteau aux pommes. Il y a quand même un peu de sucré aussi de temps en temps. Que d'odeurs et de saveurs accumulées dans les historiettes gourmandes de notre invité qui a laissé mijoter un onctueux recueil paru aux éditions Rhubarbe, éditeur auxerrois, sous le titre « Les oies du capitaine ». Il est devant le micro pour nous faire saliver. Et je suis là pour le cuisiner aimablement, Jean-Paul Rousseau est donc notre invité. Parlons un peu d'Auxerre, parlons un peu de la Bourgogne, Jean-Paul Rousseau. Vous mettez en scène un personnage qui est une figure auxerroise. Bon, Cadet-Roussel, on parlera aussi du capitaine Coignet, mais parlons d'abord de Cadet-Roussel, que vous mêlez à une histoire d'eux en meurette.
Oui, parce que je voulais. C'est lui qui a commencé. Ça a été la première histoire que j'ai écrite, parce que j'ai une grande tendresse pour ce personnage, qui a vécu géographiquement à peu près le même déplacement que moi, puisque Cadet-Roussel est né à une vingtaine de kilomètres à l'est de mon village natal, sur les rebords du Jura, Orgelais, qu'il est venu ensuite à Auxerre, tout comme moi. Bon, on ne sait pas toujours, mais Cadet-Roussel a été un républicain, et un républicain solide, ce qui lui a valu quelques inimitiés, et ce qui lui a valu la chanson, puisqu'elle a été composée par un de ses adversaires politiques, le chevalier Chenu du Souchet. Et je voulais placer une histoire sous son patronage, et pour moi ça allait bien avec les œufs en meurette, parce que c'est les œufs en meurette, c'est un plat qui est souvent maltraité. Il est maltraité de deux façons, d'abord parce que quelquefois les gens, mais ça n'est pas vraiment de leur faute, on ne leur a pas dit, ne savent pas que la meurette c'est une sauce au vin qui a cuit longtemps. Il faut que le vin ait eu le temps de digérer, si j'ose dire, les éléments. Les œufs en meurette, c'est pas compliqué. C'est une sauce au vin qui cuit pendant, disons, allez, 1h15, 1h30. Et à la limite, si on la fait la veille et qu'on la fait réchauffer pour faire les œufs, c'est encore mieux. Et puis, c'est des œufs très frais qu'on casse directement dans la meurette. Alors, ça fait un peu filocheux, etc. C'est pas très joli à voir. Mais qu'est-ce que c'est bon.
Dans, justement, cette historiette consacrée à Cadet-Roussel, elle a pour titre, sur le mode interrogatif, « Une idée neuve en Europe ».
Oui, parce que j'imagine que les deux protagonistes, qui sont un Auxerrois, Brua, qui est un personnage qui apparaît dans les mémoires sur la Révolution à Auxerre, et Cadet-Roussel se retrouve. Et bien sûr, comme ils sortent de la réunion de la Société Populaire, ils discutent de ce qu'ils y ont entendu, et j'imagine qu'ils discutent du célèbre discours de Saint-Just, où Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Le bonheur est toujours une idée neuve, et pas seulement en Europe d'ailleurs, et je trouvais... plaisant de montrer quelquefois, bon, les révolutionnaires sont caricaturés en brutes sanguinolentes, mal rasées, bon, ça va comme ça, c'était des hommes, ils étaient gourmands pour certains, et même pour beaucoup, et ils essayaient de trouver, comme nous le faisons tous, un chemin vers un monde un petit peu moins pénible.
Et d'ailleurs, ils avaient une sorte de morale, je vous cite, « Le patriotisme n'interdit pas la gourmandise, et si on boit quelques bons coups à sa santé, la République une et indivisible ne s'en portera que mieux. »
Je suis, là, j'assume totalement, rien n'est pire, et ça, effectivement, il y en a dans tous les partis, hein, rien n'est pire que, on dirait maintenant, ces ayatollahs de mon temps, on disait plutôt, les commissaires politiques, les gens qui sont incapables d'imaginer qu'on puisse en même temps avoir un engagement politique, disons, de gauche, mais à droite, j'imagine qu'ils ont les mêmes, et qu'on puisse parallèlement apprécier ce qui est bon. mon auteur préféré à gauche, c'est l'auteur, c'est Paul Lafargue, l'auteur du Droit à la paresse. Il y a un chapitre absolument splendide où il explique que le but ultime de la révolution, c'est pas de faire crever les riches, c'est que tout le monde puisse manger du jambon s'il en a envie. Et je vous signale, enfin c'est une incidente, nous allons sortir avec justement Alain Kéves, mon éditeur, et quelques autres, une petite revue dans laquelle il y a un extrait de Frédéric Engels, qui était le compagnon de Marx, et Frédéric Engels raconte sa traversée de la Bourgogne en général et de l'Auxerrois en particulier au moment des vendanges. Et ben j'aime mieux vous dire que les pisserois de la Révolution s'il y ça, ils vont avoir une surprise, parce que le camarade Frédéric buvait pas que de l'eau. On va dire ça comme ça, et il avait bien raison.
Restons dans les figures populaires, oui, et sympathiques. Alors,
oui, j'ai dérapé un peu, vous me le pardonnerez.
Les oies du capitaine, c'est d'ailleurs cette histoire qui donne son titre à l'ensemble du recueil. L'oie aux pommes, et là, vous mettez en situation un des plus célèbres combattants de l'épopée napoléonienne. Notre, je disais notre, parce que finalement dans Lyon on l'aime beaucoup, cet homme né à Druy-les-Belles-Fontaines, c'est Jean-Roch Coignet, donc né en 1776, mort en 1865. Et alors on se regarde tous les deux, oui. Jean-Roch Coignet, c'est formidable d'avoir montré ce français un peu inculte, au moment où... Enfin, un peu, oui, il ne sait pas lire, je crois qu'il a appris à lire et écrire à 30 ans, passé 30 ans.
Oui, 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 il a appris à lire, et, non, pas passé, je ne pense pas passer 30 ans, mais dans la trentaine, effectivement, il le raconte très bien, il apprenait le maniement d'armes à de futurs officiers, et les futurs officiers lui ont appris à lire et à écrire, ce qui lui a permis d'avoir la petite carrière qu'il a eue, enfin petite carrière au sens grade, hein, parce que au sens militaire, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et l'épisode auquel je fais référence, il existe partiellement dans les mémoires, on le lit, c'est l'histoire du sapin qui était de Guingois et qu'il a bougé, et en dessous il y avait les réserves, je l'ai piqué, j'en recoignais, je le reconnais, mais bien volontiers, et c'est à partir de là, alors après, j'en rajoute, j'invente, je pense qu'il en était capable.
Ce qui est émouvant, c'est la malice du personnage. Cet homme simple, oui, malicieux, et qui dit, quand on a l'estomac vide, la gloire ne compte plus guère.
Ben, il l'a dit. Hein. Il l'a dit, et il raconte. C'est un moment pour lui qui a dû être particulièrement difficile, peut-être plus difficile même que la retraite de Russie. Ils avaient rien, littéralement rien à manger. Et un soldat qui... Les soldats ne marchent pas le ventre vide, tous les grands capitaines vous le diront. Et à cette époque encore, l'intendance n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite, et il fallait savoir se débrouiller. Jean-Roch Coignet se débrouillait à merveille. C'était un modèle, et qu'il faut saluer là encore.
Et ses camarades de combat lui disent, lui prédisent une belle carrière militaire en disant « Oh, mais tu vas finir, oui, capitaine. » Et alors là, vous le lui faites dire « Moi, capitaine, faudrait que je sache lire et écrire. » Ben, finalement, il écrira. Il écrira ces fameux cahiers Jean-Roch Coignet, oui, qui sont d'ailleurs, je crois, tombés dans le domaine public.
Oui, ça, depuis
public,
le temps, ils sont dans le domaine public.
Et qui sont une source incroyable pour les historiens.
C'est finalement une source tout à fait remarquable sur la vie non seulement la vie, mais aussi comment s'étaient formées leurs idées, ce qu'ils ressentaient. Les amours de Jean-Roch Coignet, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et son début dans la vie aussi, parce que, il faut avoir présent à l'esprit qu'il n'avait pas 10 ans, on l'a mis à la porte de chez lui, on l'envoyait garder les bœufs dans le Morvan. Bon, après quoi, les Prussiens pouvaient venir, Jean-Roch n'avait pas peur d'eux.
Il y a une autre histoire, c'est celle qui a pour titre « La roulante du général ».
Oui.
Et dans la roulante du général, un personnage dit « Les médailles, ça se mange pas ».
Oui, c'est, je vous confirme les paroles, c'est là, c'est la tradition familiale. Effectivement, les médailles ça se mange pas, mais la boule du poilu par contre ça se mange, mais pas seulement quoi.
Alors, le vin d'ailleurs conseillé aussi avec l'oie aux pommes, là je reviens donc à la recette mise en scène avec Jean-Roch Coignet. Donc là vous conseillez un Nuit Saint-Georges, un Saint-Romain ou un Chinon.
Oui.
Et c'est bien là, au moins vous agrandissez un petit peu.
Mais parce que l'ennui naquit un jour de l'uniformité et dans la consommation des vins également. Et je pense qu'avec une oie aux pommes, un chinon fonctionne très bien.
Une table authentique, une assiette généreuse, un savoureux verre de vin, un feu dans la cheminée et les historiettes de Jean-Paul Rousseau qui est devant le micro pour nous faire partager quelques-unes des recettes qui lui rappellent ses origines bressanes ou des mets emblématiques bourguignons ou d'autres qu'il affectionne et qu'il magnifie à travers les historiettes qu'il a composées et dont on vous parle ce soir. Eh bien, c'est ce qu'on vous offre à toutes et à tous. Et puis, on peut recommander, je crois vraiment, Jean-Paul Rousseau, on peut recommander votre ouvrage à glisser au pied du sapin à Noël pour régaler celles ou ceux que l'on aime. On se marque une petite pause. Je vous propose d'écouter Jacques Brel. Il nous interprète une chanson qui a pour titre « Le dernier repas ».
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant « Dieu est mort » une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. À mon dernier repas, je veux voir ces drôlesses dont je fus maître et roi ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête à la mort qui s'avance les paillards de romance qui font peur aux non-nêtes. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois sans crainte et sans remords une dernière fois. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse ripaille ailleurs que sous mon toit. Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai l'eau de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois.
Un moment goûteux et stimulant pour se régaler avant les fêtes sur Radio ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Rousseau pour les Oies du Capitaine qui sont à la carte de Wagon Livre. Séduction et tentation sont finalement des invitations qu'il n'est pas permis de décliner puisque c'est dans l'assiette que se rencontrent harmonieusement littérature et gourmandise. Jean-Paul Rousseau, le temps passe vite. Alors, on a parlé de la pochouse. Alors, la pochouse, vous peut-être rappeler quand même le principe de la recette. Là, c'est du vin blanc et des morceaux de poissons de rivière.
Absolument. Ce sont des poissons de rivière. C'est un plat qui est, né de la Saône et du Doubs. Il y faut du brochet, de la carpe, de la tanche, de l'anguille et un poisson dont on me dit qu'il fait sa réapparition, qui était la lotte de rivière, mais qui avait quasiment disparu. Et en fait, on mélange ces poissons. Alors là encore, il s'agit de savoir faire cuire la sauce avant le poisson, et il s'agit de savoir la lier. Mais ça se fait très bien, avec un peu d'entraînement. Et voyez comme le monde est bien fait. La ligotée de Chitry marche remarquablement bien pour faire une bonne pochouse.
Bon. Un conseil et une recommandation donc de Jean-Paul Rousseau. On sent que vous vous êtes bien amusé, notamment aussi dans le choix des titres. Par exemple, les feux de l'amour et du tafia. Alors le tafia, c'est l'ancêtre du rhum,
c'est oui, ça. Oui, c'est hein cela. C'est le rhum, on va dire un rhum mal distillé, et un rhum de seconde catégorie, mais ou dit de seconde catégorie, donc pas transparent, et un peu mélassou encore. Mais...
Donc ce tafia, on le met sur le crapet et oui, on le fait flamber.
On le fait flamber, parfaitement.
Alors il y a une autre historiette qui a pour titre « Six hommes dans un canot ». Alors là, j'ai pensé, moi, à trois hommes dans un bateau, de Jérôme K. Jérôme.
Oui, vous avez bien pensé.
Bon, ça va. Et bien alors, il y a l'historiette dont je voudrais que l'on parle absolument avant de se quitter, c'est un kiri dans le fromage. Alors, vous allez me dire, est-ce que je pousse un peu loin?
Dans
moi,
le potage, peut-être.
Dans le potage.
Oui, excusez-moi.
Un kiri dans le potage. J'ai pensé au kiri, le fromage blanc oui, qu'on trouve, c'est aussi un. Il y avait un clin d'œil, un musée.
Non, pas du tout. C'était.
On peut mettre un kiri dans son potage.
On peut mettre un kiri dans son potage, mais il vous a pas échappé que c'est un kirié. Puisque l'histoire repose sur les mésaventures d'un Auxerrois d'adoption. Mm-hmm. Hannibal Gantès et son opposition supposée avec son évêque.
Dans une période troublée.
Oui, et l'évêque, alors ça, il y a au moins une chose dont on est certain, c'est que l'évêque en question, qui s'appelait Pierre de Bro, et qui était un assistant, un proche de Richelieu, partageait avec son patron un assez faible sens de l'humour. Voilà. Et je vois bien, Hannibal Gantès a écrit un bouquin qui est connu de quelques-uns, qui s'appelle L'entretien des musiciens, où il répète à plusieurs reprises que pour qu'un musicien puisse avoir de l'entrain, puisse composer, il est important, il faut l'arroser comme on arrose son jardin, mais on ne l'arrose pas avec de l'eau, on l'arrose avec du vin, et ça tombe bien parce qu'à Auxerre, justement, il y en a pas mal. Alors, je pensais que la rencontre de ces deux personnages, Gantès, qui est un peu fantaisiste, qui a vicarié, c'est-à-dire qui a erré à droite, à gauche, avant de trouver enfin refuge à Auxerre, d'un côté, et Pierre de Bro, un peu contre-réforme, mais en même temps, c'est lui qui a conduit les travaux du siège de La Rochelle, sous Richelieu, ça faisait deux personnages, une rencontre qui pouvait être amusante.
Alors, l'audace d'Hannibal Gantès, c'est qu'il a, en fait, déguisé une mazarinade oui, pendant un office religieux.
Absolument.
Donc, il a déguisé une mazarinade dans un kyrie. Et un soir, il est censé recevoir un ami. Là, on retrouve les écrevisses.
Oui, oui, tout à fait.
Les écrevisses dont vous aviez fait...
C'est un animal emblématique.
Et notre Hannibal Gantès, donc, reçoit un ami. Et là, quelqu'un frappe à la porte. C'est l'ami en question, mais accompagné, donc, de Monseigneur Pierre de Broc. Et Ce qui est incroyable, c'est que Hannibal Gantez va devoir... En fait, il est puni, c'est ça, c'est la nourriture. On est privé, comme des parents disent à un
mais
enfant,
oui.
Il est privé de dîner, il doit faire pénitence.
Mais quoi. Oui, il doit faire pénitence et il fait pénitence. Je pense que c'était... je suis un grand lecteur de nouvelles des 18e et 17e siècles. C'était le genre de petite, farce, un petit peu en même temps sarcastique, mais pas si méchante que ça, dont les grands aimaient de temps en temps accabler leurs inférieurs.
Voilà. Ce qui est beau aussi dans cet historien, Jean-Paul Rousseau, c'est qu'il est question donc de l'idée du péché,
oui.
Le repentir et le pardon qui est accordé par Monseigneur grâce à l'excellence du fameux potage aux écrevisses qui a été servi.
Je pense que peut-être que quand Monseigneur Pierre de Brault est rentré dans la pièce, il avait en tête une pénitence beaucoup plus sévère, mais... Entre le potage aux écrevisses, les pigeonneaux, le bon vin qui vient de Saint-Brie, tout ça incline à l'indulgence et fait que finalement on reste humain.
Vin de Saint-Brie et des écrevisses qui sont pêchées dans les rivières de l'Auxerrois et notamment dans le rue de Beauche. Hein.
Oui, parce que à cette époque, ce qui n'était pas toujours souriant, point sans faux, au moins on pouvait pêcher des écrevisses. Là, c'est totalement impossible. Enfin, on peut encore pêcher des écrevisses, mais ce ne sont plus les mêmes et c'est surtout plus au même endroit.
Jean-Paul Rousseau, il faut aussi rendre hommage aux illustrations oui. qui accompagnent oui. ces historiettes et qui sont des illustrations de Vivia Kam et qui sont des illustrations animalières
oui.
Qui sont de toute beauté et qui, elles aussi, je crois, apportent
tout
une autre
fait.
Saveur
tout
au recueil.
Fait. Tout à fait. Alain Kéves m'avait proposé cette illustratrice. Moi, j'ai été tout de suite séduit. On a eu une petite discussion avec elle parce que il a fallu arriver à un accord sur le sens, l'aspect général et je pense que le résultat est plus que satisfaisant. Elle apporte vraiment quelque chose au livre.
On fait une dernière pause musicale avant de se retrouver. On écoute une chanson de Julos Bocarn, c'est « Le noir extrême ».
Je suis dans le noir extrême, j'ai plus de goût pour le chocolat. La femme que j'aime, peu à peu s'en va de moi. Elle en aime un autre, 99 fois plus fort que moi. C'est un bon apôtre, je sens que je ne fais pas le poids. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Je lui envoie des pralines, exprès pour la Saint-Valentin, dans un coffret corsage, mais c'est pour le balai de crin. J'essaie toute la gamme, les chocolats les plus fins. Elle est insensible, la mignonnette ne veut rien. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Même une petite bouchée est rejetée d'un revers de la main. Je n'ai plus du tout la côte, alors hélas me pissuie des mains. Cette fois je passe à la trappe, je n'ai plus le moindre argument. C'est un vrai massacre. Chaque fois que je parle, elle dit que je mens. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. What qu'est-ce que je peux faire? Je donne vraiment ma langue au chat. Si c'est comme ça, je vais me faire ermite au fond du Sahara, là où jamais on ne mange le moindre bâton de chocolat, la moindre ganache, ni le moindre giant d'ouja. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Pourtant, entre chienne et louve, je penserai toujours à toi, au sablé pur beurre, aux figurines de chocolat. Et quand ce sera l'heure du Tabasco des gamins, je me souviendrai des truffes, des orangettes et du nougat. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. C'est un dur métier que l'exil, loin des si bons bonbons liqueurs, sans balotin ni pâte à tartine, sans mendiant, sans toutes ses douceurs. Bien sûr, c'est aussi la grande vie, les figues, les dattes et les kiwis, dans les palmeraies infinies du désert du Kalahari. Plus de cacao, plus de chocolat, si t'es en manque, mange l'ananas. Plus de cacao, plus de chocolat, la manque c'est bon pour ce que tu as. La manque c'est bon pour ce que tu as. La manque c'est bon pour ce que tu as.
Le temps passe très vite, Jean-Paul Rousseau. On va devoir se quitter. Je recommande donc chaudement à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés les historiettes contenues dans Les Oies du Capitaine, disponibles aux éditions Rhubarbe. Je crois que effectivement, c'est un recueil savoureux pour se faire plaisir avec ces belles illustrations de Viviacam. Et puis vos histoires, l'histoire de France, les recettes hein, qui sont authentiques et qui sont les seuls éléments presque ça, authentiques.
Je garantis l'authenticité des recettes et je garantis que je les ai moi-même expérimentées.
Donc des recettes fiables.
Je les prétends fiables. Alors après, tout est dans l'habileté du cuisinier ou de la cuisinière, mais je ne doute pas qu'elle sera grande.
Alors, bien sûr, il y a d'autres historiettes. On n'a pas pu s'arrêter sur chaque historiette, mais découvrir.
Il faut que le lecteur ait des surprises.
Un petit questionnaire rapide avant de nous séparer, Jean-Paul Rousseau. Quel est votre principal trait de caractère?
Bien, je dirais l'entêtement quand je suis de mauvaise humeur et la ténacité quand je suis plutôt positif.
Votre héroïne et votre héros dans la vie?
Alors, mon héroïne, c'est ma femme, et mon héros, c'est Bria Savarin.
Pour écrire un livre, il vous faut quoi?
Il me faut du temps, un ordinateur et un bon éditeur.
Avec Alain Quévès, vous êtes satisfait?
Avec Alain Quévès, ça va, je le trouve même un peu trop laxiste parfois. Mais je pense qu'il peut encore, il a une marge de progression. Voilà.
Votre mot favori?
Mon mot favori, c'est le bonheur.
Un objet indispensable?
Une paire de chaussures de marche confortables.
Votre Madeleine de Proust?
Le jambon persillé.
Alors, c'est vrai aussi qu'à un moment dans une des historiettes, un personnage évoque une odeur et dit « 35 ans après, je la sens encore ». C'est dans la poule du juge de paix.
Oui.
Vous aussi, vous avez une odeur, donc c'est jambon persillé.
Oui, il y a le jambon persillé, mais il y en a beaucoup. Il a fallu que je me fatigue un petit peu, parce que des Madeleines de Proust, j'en ai plusieurs.
Et tant mieux.
Oui, absolument.
À quelle occasion mentez-vous?
Eh bien, je mens chaque fois que ça m'arrange, et ça fait assez souvent. Vous m'aviez demandé quel était mon livre de chevet. Je vais le dire quand même parce que c'est un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Ce sont les mémoires du duc de Saint-Simon.
En tout cas, mon livre de chevet, ça restera avant Noël et jusqu'à la Saint-Sylvestre, Les Oies du Capitaine de Jean-Paul Rousseau aux éditions Rhubarbe. Merci Jean-Paul Rousseau d'avoir été devant le micro de Wagon Livre.
C'est moi qui vous remercie. On vient de passer un très bon moment ensemble et, rendez-vous au prochain livre s'il existe.
Bien volontiers. Bonsoir Jean-Paul Rousseau.
Bonsoir.
Notre rendez-vous touche à sa fin. Je vous rappelle l'avenue Avezelay de Christian Bobin ce samedi 22 décembre à partir de 15h à la Cité de la Voix pour une conférence lecture autour de son dernier ouvrage, L'Homme Joie, paru aux éditions L'Iconoclaste. Une rencontre littéraire organisée par la librairie L'Or des Étoiles de Vézelay. Et donc, j'insiste, une conférence qui se tiendra à la Cité de la Voix, à Vézelay. Attention, le nombre de places est limité. Il est donc extrêmement prudent de réserver auprès du libraire Laurent Equet au 03 86 33 30 06, 03 86 33 30 06. Nous y serons d'ailleurs pour Radion et on vous proposera un petit entretien avec Christian Bobin que nous diffuserons dans l'émission de mercredi prochain sur votre radio locale. En effet, le 26 décembre prochain, toujours à partir de 21h, non seulement vous aurez le plaisir d'entendre Christian Bobin, mais en première partie, nous vous proposerons un entretien avec Jean-Loup Chifflet pour son Dictionnaire amoureux de l'humour paru aux éditions Plomb. Rendez-vous le 26 décembre prochain à 21h, toujours sur Radion. Je vous souhaite de partager avec celles et ceux que vous aimez un Noël chaleureux et gourmand. Excellente fin de soirée sur votre radio locale. Merci à vous toutes et tous. Au revoir.